1, 2, 1, 2.
Parlons vrai avec BNP Paribas.
Je pars bientôt à la retraite et je me suis encore coincé le dos. Je fais comment pour payer l'ostéopathe?
Eh bien, je vous conseille la complémentaire santé BNP Paribas qui peut prendre en charge les médecines douces. Ah. Et si vous souscrivez lors de votre départ à la retraite, vous bénéficiez de 25% de réduction la première année.
25%?
Mm-hmm.
Pas mal. Moi qui pensais dos au mur, ça va mieux.
BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
BNP Paribas Protection Santé assurée par Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir conditions en agence.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour sur Europe 1, aussitôt après le flash de 13h, Franck Ferrand nous conduit au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Et avant tout, un grand merci pour votre fidélité. Les chiffres de Médiamétrie sont tombés ce matin, je pense que vous le savez, on ne parle que de ça partout.
C'est important.
Et ils nous indiquent que vous êtes chaque jour plus nombreux à nous rejoindre. Vous pensez que nous sommes très heureux et très fiers.
Et c'est une grande aventure doublée d'un grand mystère que vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui, Franck.
Oui, l'aventure, c'est celle de l'Astrolabe et de la Boussole, les deux navires de Monsieur de la Pérouse, parti faire le tour du monde à la fin du XVIIIe siècle. Et le mystère, c'est celui de leur disparition avec toutes les expéditions montées depuis deux siècles pour les retrouver. Autant vous dire que nous allons changer d'air tout de suite en ce début d'après-midi sur Europe 1.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pour définir l'expédition de la Pérouse, on pourrait dire entre autres choses qu'elle aura été le plus beau rêve de Louis XVI. La passion tout entière de ce monarque méconnu mais estimé est comprise entre deux légendes. Vous savez, on dit que dans son enfance, alors qu'il était duc de Berry, le futur Louis XVI se faisait mener sur les toits du château de Versailles et qu'il tentait, s'esquintant les yeux, d'apercevoir la mer au loin. Le pauvre, il n'y risquerait pas d'y arriver. Et on affirme aussi que beaucoup plus tard, au pied de l'échafaud, le souverain déchu aurait demandé si quelqu'un avait des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Alors, je sais bien que ce ne sont là que des images, mais comme toutes les images, elles renferment une part de vérité. Louis XVI était un roi géographe et cartophile, un esprit ouvert et curieux, et toute sa vie, il aura cherché à percer le secret des terres inconnues. Notre expédition de la Pérouse, eh bien, c'est sans doute, en fin de compte, l'entreprise dont il aura été le plus fier. Alors cette expédition, en quoi consiste-t-elle? On va y revenir longuement avec mes invités dans tout le cours de cette émission. Sachez déjà que c'est un voyage d'étude avant tout, c'est-à-dire un projet largement désintéressé, voué d'abord au progrès des connaissances. Naturellement, des retombées pouvaient être envisagées pour la diplomatie, pour le négoce. Mais aux yeux de Louis XVI, ce n'était pas là l'essentiel. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en 1784, la France vient de triompher de l'Angleterre dans la guerre pour l'indépendance américaine. Et grâce aux trois circumnavigations de l'anglais Cook et de son second Clark, l'ère des grandes découvertes vient de céder la place à celle des voyages scientifiques. C'est que la France, dans ce domaine, n'a pas eu de grand projet depuis l'expédition de Bougainville sous le règne précédent. Donc, Louis XVI entend profiter de son avantage pour lancer une grande mission scientifique française dans l'océan Pacifique, mission dont l'objectif sera double et même triple en vérité. D'abord, il faut relever les terres de l'Ouest américain, de l'Est asiatique, de l'Océanie si possible, les terres qui étaient échappées à Cook et aux Anglais. Après tout, c'est toujours cette espèce de course-poursuite entre la France et l'Angleterre à l'époque. Il faut deuxièmement assurer la présence française dans un océan qui paraît évidemment très prometteur. Et puis enfin, et peut-être surtout, il s'agit de multiplier les études dans tous les domaines, zoologie, botanique, minéralogie. Tout ça fait un peu penser à ce qui va se passer en Égypte plus tard avec l'expédition de Bonaparte, vous savez. Alors pour mener les deux grands navires de cette expédition, Louis XVI et son ministre de la Marine ont jeté leur dévolu sur un capitaine expérimenté mais encore assez jeune. On va voir tout à l'heure ce qui a convaincu Louis XVI de lui faire confiance. Un homme d'origine terrienne, tout ça on va en reparler. Il a 43 ans, la mine toujours réjouie, du feu dans le regard. Il s'appelle Jean-François de Gallo de la Pérouse et lui-même se choisit comme second un solide marin breton de 3 ans son cadet, le chevalier de l'Angle. Et il décide d'emblée de rebaptiser les deux frégates qu'on lui fournit pour sa mission. Il faut dire que les frégates en question, elles s'appelaient, tenez-vous bien, l'Autruche et le Portefaix. Vous avouerez que c'était pas formidable. Alors on les a rebaptisés pour l'occasion la Boussole et l'Astrolabe. Les cales des deux frégates sont chargées à ras-bord de vivres. On monte tout toute une ménagerie sur pied, hein. Et puis d'instruments, savants et de pacotilles pour les indigènes, des casques à crinière, de la soie à ramage, des sifflets, des grelots et même des lanternes magiques. Bref, de quoi épater le nouveau continent. Le grand jour arrive bien vite. Retenez cette date, elle est mythique pour tous les marins de France depuis 2 siècles et plus. Le 1er août 1785, la boussole et l'astrolabe quittent la rade de Brest. Très tôt le matin, il est 4h quand elle commence à prendre la mer. Il va d'abord leur falloir 13 journées de traversée pour gagner le port de leur première escale, Madère. Ensuite, on met évidemment le cap vers le Brésil. Tout ça, la traversée se passe sans problème. Alors, ce qu'appréhendait la Pérouse, c'était le passage du Cap Horn. Tout ça se passe comme une lettre à la poste. Et de l'autre côté, sur la côte chilienne et dans la baie de Talcahuano, les Espagnols sont là pour les recevoir, si je puis dire. Il va falloir s'arracher, hein, littéralement, pour continuer. Vous pensez bien que pour tous ces marins qui arrivaient de la froide Europe, les très accueillantes espagnoles étaient, bien entendu, un motif de rester. Les deux vaisseaux, armés par le roi de France, abordent sans encombre à l'île de Pâques. Entre parenthèses, on prend des mesures, hein. 16 pieds, 10 pouces, on nous croira jamais à Versailles, dit le chevalier de l'Angle. Vous imaginez, effectivement, on n'imaginait pas que de tels mégalithes pouvaient exister. Et puis après 27 nouvelles journées de pleine mer, c'est l'arrivée si stimulante aux îles Hawaï, on dit alors Sandwich, c'est là qu'est mort James Cook. Alors on ravitaille et on lève l'ancre de nouveau. À mesure, évidemment, que l'on remonte vers le nord, la Pérouse, le chevalier de l'Angle et tout leur petit monde se mettent à souffrir du froid. On est obligé de se saouler de grog au quinquina et de maintenir des braseros dans les entrepôts. Là, ça change, évidemment. C'est le gros problème de ces énormes navigations, c'est qu'on y change en permanence de climat. Il faut dire que ça valait la peine, car la côte de l'Alaska est une chose sublime. Spectacle grandiose qui leur est offert pour le solstice d'été de cet an de grâce 1786. À Bering, les glaces du mont Saint-Élie qui culmine à plus de 5600 mètres. Imaginez ces glaces translucides à perdre la tête. La Pérouse est enthousiaste. Il va fonder un havre, port des Français. Il envoie 2 barques en repérage. Et là, soudain, c'est le drame. Les barques sont happées par un courant très fort, jetées sur des brisants. C'est l'accident. Il y aura 21 morts dans cet accident, dont les 2 fils du marquis de Laborde. C'est un drame, évidemment, terrible. Les équipages de la boussole et de l'astrolabe, quand ils quittent port des Français, sont empreints d'une gravité nouvelle. On ne s'attendait pas, on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on part à la très grande aventure, mais on ne s'attendait pas à un drame de cette ampleur, évidemment. Ils ont mis le cap au sud de nouveau, vers des côtes moins hostiles, vers la Californie. Ils n'en continuent pas moins de remplir bien scrupuleusement la mission qui leur a été confiée par le roi géographe. Ils répertorient tout ce qu'ils voient, les côtes, les baies, les estuaires, les îles.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité, Dominique Lebrun, navigateur, grand voyageur, fin connaisseur de la littérature maritime. Il a réuni et expliqué les textes autour de l'affaire La Pérouse dans l'ouvrage La malédiction La Pérouse, 1785-2008, sur les traces d'une expédition tragique disponible chez Omnibus.
Ah oui, c'est exactement le genre d'ouvrage dans lequel vous vous plongez et que vous ne pouvez plus relâcher. Vous savez, parce qu'en plus, on n'est pas obligé de lire ça de la première à la dernière page. On se promène à travers cet extraordinaire ensemble d'aventure. Bonjour Dominique Lebrun, merci. Bonjour. D'être avec nous. Alors, je suis allé un peu loin, moi, volontairement. J'ai voulu suivre la Pérouse sur le début de son expédition. On est déjà assez loin dans l'océan Pacifique. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, si vous voulez, quand même, et que, en quelques mots, vous nous donniez une idée du contexte dans lequel tout ça se déroule. On est dans un siècle qui est le siècle de la... non plus des grandes découvertes, hein, mais ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire celui de l'expérimentation et de la découverte du monde, en fait. C'est ça.
L'expérimentation, la découverte du monde, et puis la découverte intellectuelle, puisque le mythe du bon sauvage, les philosophes, donc Diderot, vont avoir une influence considérable dans cette expédition. Écoutez la vie, d'ailleurs, de plusieurs marins de la Pérouse.
Ah oui, voilà.
Alors, puisqu'on parle de choses humaines, si la Pérouse se trouve être nommé chef de cette expédition, c'est précisément parce qu'il a montré au roi Louis XVI que c'était non seulement un très fin navigateur qui avait une expérience capitale, puisqu'il a navigué à l'époque sur tout l'Atlantique et l'océan Indien, donc c'est quelqu'un qui est capable de mener un navire partout. Il a accompli une mission exceptionnelle en baie d'Hudson. La baie d'Hudson, c'est le nord du Canada, une zone très peu cartographiée. Il a reçu pour mission d'aller trouver là-bas 2 forts anglais, de les détruire et de revenir.
Et alors là, dans le cadre de cette mission, il va faire preuve d'une humanité qui, dans un premier temps, lui vaut quelques problèmes. Racontez-nous ça.
C'est une histoire merveilleuse.
Ouais.
Donc, la Pérouse trouve ce fort qui est commandé par un certain Samuel Hearn. À l'époque, la Pérouse ne sait pas qui il est. On fouille le fort et on trouve des documents. Ces documents, c'est toute la cartographie des estuaires, des grands fleuves qui vont vers le nord. C'est ce qui sera le passage du Nord-Ouest. Le passage stratégique capital au monde, le passage de l'Atlantique au Pacifique par le nord du continent américain.
Formidable.
Et là, la Pérouse prend ses documents, les rend à Hearn, qui les a constitués.
Qui était en prison, en fait. Hein,
ah ben, il est prisonnier, il est détenu, capturé.
Il
est détenu. Il dit, voilà, je vous rends ces documents, mais à une condition, de retour en Angleterre, parce que je vais vous donner les moyens de rentrer en Angleterre, vous les publierez, vous les mettrez à la disposition de tous. Tout comme
c'est l'amour de la science. Hein.
Ah, c'est magnifique. Mais c'est ça le siècle des Lumières.
Oui, voilà.
Tout comme les textes de Cook avaient été traduits. Et c'est aussi pour cela que lorsque cette guerre s'achève, 1783, lorsque on lance cette expédition, les Anglais vont prêter à la France des instruments que les Français ne possèdent pas, comme certains sextants qui sont plus performants que les nôtres.
Mais oui, c'est un échange et c'est une émulation.
C'est une émulation.
Et non pas, comme on connaîtra plus tard, à partir du XXe siècle notamment, une espèce de concurrence forcenée entre nations qui se cache les informations, en fait.
C'est un moment de grâce dans l'histoire de la recherche.
Formidable.
Oui.
Et alors, Louis XVI entend parler. Alors, d'abord, le ministre sanctionne.
Louis XVI, mis au courant.
Sanctionne la Pérouse.
La Pérouse, qui était supposée, en fait, laisser ces gens mourir de froid et de faim, que la Pérouse aura donner de quoi construire un autre bateau et rejoindre la civilisation. La Pérouse s'en défend et le roi dit d'abord ce raid était stupide, complètement coûteux, militairement inutile. Deux, en revanche, mais là il a sûrement pas dit, j'ai trouvé la personne qu'il me faut pour commander mon expédition.
Comme quoi la Pérouse a bien fait d'agir comme il l'a fait puisqu'il a attiré l'attention du roi qui a trouvé que c'était un beau geste et qui donc a voulu en quelque sorte, sinon le récompenser, en tout cas lui donner les moyens d'aller au bout de ses propres recherches. C'est ça l'idée ?
Non, j'aime pas la façon dont vous présentez les choses parce que ça laisserait entendre que la Pérouse était calculateur.
Non, pas du tout.
C'était un personnage
hors norme.
Non, je dis
il a bien fait d'un point de vue extérieur.
Il a bien fait, oui, absolument.
Alors, on ne va pas revenir sur toute la préparation de l'expédition, puisqu'on y était parti déjà. J'ai dit qu'ils ont quitté Brest le 1er août 1785. Il y avait 110 hommes d'équipage ?
Sur chaque bateau.
Sur chaque bateau.
Plus une quinzaine de scientifiques au total, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour se déplacer.
Oui,
d'autant plus
sûr.
Que vous avez évoqué tout à l'heure, le bétail sur pied pour nourrir en viande fraîche les équipages. C'est le genre de bateau, je pense qu'on ne pouvait jamais être à moins de 1 mètre d'une autre personne.
Ça devait être un entassement. Ce sont des flûtes en plus les bateaux, hein, des navires assez effilés,
On appelle flûte un bâtiment de guerre dont on a enlevé une partie de l'armement pour laisser de la place et enlevé une partie de la voilure de façon à ce qu'il puisse être manipulé par un équipage moindre. Donc le terme flûte, en revanche, oui, ce sont des bateaux fins puisque ce sont des bateaux de guerre, à la différence de ceux de Cook qui étaient des bateaux de transport.
Et voilà.
Absolument.
Donc ce qui explique aussi la relative aisance de toute la première partie de cette expédition.
Oui, complètement, parce que du coup, c'était des bateaux qui étaient très maniables par rapport à d'autres navires marchands comme ils auraient pu en utiliser.
Alors, ils vont quand même subir un certain nombre d'attaques de la part des indigènes qu'ils peuvent croiser en chemin.
Alors ça, c'est la malédiction, justement. La malédiction, elle a commencé dans la baie des Français, l'Utoya, avec ce naufrage de deux embarcations.
Si vous voulez, ça, on va y venir dans un instant.
D'accord.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Et nous suivons aujourd'hui sur Europe 1 les traces de La Pérouse. Notre guide se nomme Dominique Lebrun. Je rappelle qu'il est navigateur et grand voyageur, Franck.
Et très bon raconteur aussi, puisqu'il nous entraîne là aujourd'hui sur les traces, sur les pas de La Pérouse. Alors, toute la première partie du voyage, nous l'avons dit, s'est relativement bien passée. Et puis,
même,
première grosse anicroche, gros problème.
Baie des Français.
Eh oui.
Baie des Français. Alors, la baie des Français, c'est une baie très bien fermée, un peu comme la rade de Brest, avec un goulet très étroit. Comme vous l'avez raconté, courant de marée descendante, très fort, plus fort que prévu. Deux embarcations qui étaient venues sonder pour préparer l'arrivée de nouvelles escadres un jour, dans le cadre d'occuper le terrain, sont emportées par le courant. Et là, on a la rencontre entre le courant très fort et la houle du large. Ça crée des brisants. Immédiatement, les bateaux coulent.
Voilà,
21 victimes, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est le début des malheurs dans la vie de la Pérouse, qui jusqu'à présent a eu une carrière exemplaire et chanceuse.
Lumineuse, oui.
Lumineuse. Et là, tout commence à se passer moins bien.
Ça commence à basculer et nous allons voir dans quelques instants que ça se met à aller encore moins bien quelques semaines plus tard. Mais ça descend progressivement, en quelque sorte, comme si la chance tournait un peu d'une certaine façon.
Une progression dramatique.
Comment est-ce que l'expédition communique avec la France à l'époque?
Alors justement, ça c'est le miracle. Je parlais de la malédiction, ça c'est le miracle de la Pérouse. C'est-à-dire qu'il avait été prévu qu'à certaines escales, on trouverait des bateaux à qui on confierait les journaux de bord et qui les ramèneraient, mieux que ça, à un moment donné, quelqu'un partirait à travers tout le continent européen, traverserait la Sibérie pour amener jusqu'à Versailles d'autres documents. C'est pour cela que jusqu'à l'Australie, mais ça on en parlera tout à l'heure, donc dans un premier temps, c'est à Macao que les documents donc, de l'expédition sont confiés à un bâtiment français. C'est le marquis de Castres, c'est une flûte, elle aussi. Quelque temps plus tard, c'est à Cavite, c'est-à-dire à Manille, aux Philippines, que c'est un bâtiment anglais qui emporte les documents. Et plus tard, on en parlera tout à l'heure, ce sera à Sydney que l'escadre de l'amiral Philippe prendra la fin des documents.
Ce qui est assez frappant, c'est qu'on observe une attitude très différente de celle que pouvaient développer les conquistadors du XVIe siècle, qui étaient toujours guerriers, hostiles, sur la défensive à l'égard des populations de naturelles, comme on disait. C'est plus le cas, là.
Le bon sauvage.
C'est le mythe rousseauiste.
Le bon sauvage. Hein, mais le bon sauvage a posé problème. Problème dès l'île de Pâques.
Quand vous dites le bon sauvage, pour ceux qui ne seraient pas très
au fait,
c'est-à-dire que c'est l'idée développée largement par Rousseau notamment,
absolument,
que l'homme à l'état de nature est très bon, c'est un bon sauvage. Donc,
voilà.
Donc on ne peut pas ni lui vouloir du mal, ni en recevoir de sa part, pense-t-on à l'époque.
Et ce serait une erreur que de lui en vouloir par accident,
il pouvait y avoir
quelque chose. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que Bougainville a fait une escale fameuse à Tahiti, a ramené un récit qui a été complètement transformé par Diderot notamment, et on est venu l'idée du mythe suivant lequel, dans les pays où les populations sont, entre guillemets, sauvages, elles ne peuvent être que bonnes.
Et voilà.
Mais dès l'île de Pâques, pour éviter de se faire voler et piller, déjà, les équipages ont du mal, mais lorsqu'on va arriver effectivement dans les îles Samoa, là où donc sur une, ce qu'on appelle une corvée d'eau, ces gens vont faire égade, comme on dit, vont faire le plein d'eau, une échafourée va aboutir encore à un massacre, dont celui du second de l'expédition, Fleuriot de Langue, qui est aussi de l'ami de la Pérouse.
Et il y a eu encore 11 morts cette fois.
11 ou 12, je ne sais plus.
C'est ça, 12. C'est ça, 12 morts.
12.
Donc, il faut bien qu'on voit à peu près le trajet que fait la Pérouse, c'est-à-dire qu'il est monté au détroit de Bering, puis il redescend après par toute la...
Il longe la Californie jusqu'à Monterey, et la traversée en ligne droite du Pacifique, pour tomber donc sur Macao et les Philippines, l'équivalent de Hong Kong pour la géographie qu'on connaît bien maintenant.
On va se retrouver, on va remonter après vers les îles Kouriles, vers le Kamchatka, etc. Nous y venons, si vous voulez, dans un instant. On va raconter ce qui s'est passé à ce moment-là.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck sur Europe 1 qui nous fait vivre aujourd'hui l'expédition de la Pérouse.
Alors voilà donc la boussole et l'astrolabe qui, comme nous le disions à l'instant, remontent maintenant le long des côtes tartares. Ils vont se retrouver sur la côte ouest de l'immense île de Sakhaline. Le moment est venu de faire connaissance d'ailleurs avec les naturels du coin, les Aïnos, qui sont de type européen. Alors ça surprend beaucoup les scientifiques évidemment. Et puis le 7 septembre, les deux frégates abordent à la pointe de la presqu'île du Kamchatka. Ce sont des terres qui sont sous la souveraineté de l'impératrice de Russie, à l'époque Catherine II, Catherine la Grande, dont la Pérouse du reste serait peut-être surpris d'apprendre qu'elle-même se passionne beaucoup pour tout son périple. Elle n'est pas la seule, comme en témoigne le courrier abondant parvenu de France via la Russie et que l'équipage va lire le cœur serré, les yeux humides. Vous imaginez, ce sont des nouvelles déjà vieilles de 11 mois. C'est un peu le principe des étoiles qui continuent de briller après leur mort, mais tout de même, c'est mieux que rien des nouvelles de 11 mois. Et maintenant, il faut répondre. La Pérouse va confier un gros paquet de courriers à l'un de ses jeunes officiers qui s'appelle Barthélemy de Lesseps. C'est d'ailleurs l'oncle de Ferdinand de Lesseps. Et puis, il part le 7 octobre 87, ce courrier, et il arrivera à Versailles, tenez-vous bien, le 17 octobre 88. Un an, hein, probable, oui, mais voilà. Après des péripéties d'ailleurs incroyables à travers tout le continent qui feraient la matière d'un beau roman. Alors pendant ce temps-là, la Pérouse, laissant le Kamchatka derrière lui, a mis le cap plein sud, vers la suite du programme établi par Louis XVI, s'il vous plaît, c'est-à-dire vers la Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon et la Nouvelle-Hollande, comme on appelait l'Australie de l'époque, ou en tout cas à l'époque. Les deux frégates, à peine défraîchies, quand même, vous imaginez, elles en ont fait du chemin, se lancent sur les traces de Bougainville, à cet endroit-là bien sûr, et parvenues dans l'hémisphère sud pour la troisième fois, on passe son temps à passer d'un hémisphère à l'autre, elles elle pénètre l'archipel mythique des navigateurs. C'est dans l'île de Tutuila que les attend le destin. Le second de la Pérouse, le chevalier de l'angle, s'est laissé séduire par l'apparence accueillante de l'île et de ses habitants. C'est ce que nous disait à l'instant Dominique Lebrun. Il y a le 11 décembre 87 une sorte de d'échauffourée. Il est victime d'une agression, disons, qui tourne à la tragédie. Et ça fera, comme on le disait tout à l'heure, 12 morts. Donc on est d'accord sur ce chiffre de 12 morts. La Pérouse donne l'ordre de lever l'ancre, mais pour la première fois depuis 2 ans et demi, là on peut dire que le cœur n'y est plus vraiment. C'est un peu comme si la chance avait quitté l'expédition, c'est ce qu'on se disait, et que l'avenir commençait à se dessiner sous des auspices moins favorables. Le grand capitaine évite soigneusement désormais les îles qu'il va croiser sur sa route. Il ne s'autorise à mouiller qu'en rade de Sydney, enfin ce que nous appelons nous Sydney maintenant. On est alors en janvier 88. La Pérouse confie de nouveau paquet de lettres à des vaisseaux anglais. Le dernier partira le 25 février et ça, ce sont les ultimes nouvelles qu'on ait de l'expédition. Après, eh bien après, c'est le silence, le noir, le néant. Évidemment, ce silence radio, si j'ose un affreux anachronisme, inquiète beaucoup. En France, il va bientôt transformer les deux frégates en vaisseaux fantômes, si je puis dire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on est en pleine révolution. La fin de l'expédition avait été programmée pour juillet 89. Ça ne s'invente pas. Juillet 1789, pour ceux qui nous prendraient en cours. Et naturellement, on peut dire qu'avec tout ce qui est en train de se passer à Versailles et à Paris, les navigateurs passent vraiment au second plan. Cependant, en avril 90, le ministre de la Marine témoigne de son inquiétude. Le roi lui-même se montre tout à fait concerné par le sort de l'expédition, cette expédition à laquelle il a pris une si grande part. Le 9 février 1791, révolution oblige, l'Assemblée nationale, et oui, maintenant il y a une Assemblée nationale, décrète que le roi est prié de demander au corps diplomatique d'engager les divers souverains concernés à effectuer des recherches à propos de monsieur La Pérouse. L'opinion commence à se passionner pour ce qu'on appelle déjà le mystère La Pérouse. Vous voyez, ça n'a pas tardé finalement. Le 25 septembre 1791, le commandant d'Entrecasteaux, avec deux flûtes bien nommées, La Recherche et L'Espérance, avouez que ça ne s'invente pas non plus, Entrecasteaux quitte Brest, comme La Pérouse 6 ans plus tôt, avec pour mission d'élucider le fameux mystère. Entrecasteaux doit retrouver l'expédition La Pérouse, seulement les temps sont ce qu'ils sont, à bord des deux bâtiments, aristocrates et gens du peuple, si je puis dire, jacobins en l'occurrence, se tirent continuellement dans les pattes, si j'ose dire. Les recherches sont effectuées en dépit du bon sens et en mai 1793, passant à portée de l'île de Vanikoro, on décide de ne pas mouiller pour cause de mauvais temps. Mauvaise décision. Parce que c'est là qu'a sombré l'expédition La Pérouse et s'il y avait encore des survivants, ce ne pourrait être que sur cette île. Entrecasteaux lui-même va mourir du scorbut 2 mois plus tard. Quant à l'équipage, miné plus que jamais par ses déchirements politiques, il finira, figurez-vous, c'est pas très brillant, mais c'est ainsi, par se rendre aux Néerlandais. S'il y avait donc une chance de sauver quelque chose de l'expédition La Pérouse, alors cette fois, on peut dire que personne ne l'a saisi.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Une grande aventure doublée d'un grand mystère. Nous évoquons aujourd'hui sur Europe 1 la malédiction La Pérouse, Franck.
Alors justement, je vous ai dit que Louis XVI avait été jusqu'à son exécution passionné par cette affaire. Le pauvre sera mort sans savoir ce qu'il advenait de l'expédition La Pérouse. Et lorsque son petit frère, alors pas le deuxième frère, le comte de Provence qui va devenir Louis XVIII en 1814-15, mais celui qui succède à Louis XVIII en 1824, qui s'appelle donc Charles X, par fidélité à la mémoire de son frère et parce qu'il s'intéressait lui-même beaucoup à la question, va décider de relancer les recherches. Une corvette rebaptisée exprès l'Astrolabe quitte le port de Toulon sous le commandement d'un capitaine de 35 ans, Jules Dumont-Durville. C'est ce pauvre Dumont-Durville qui mourra dans le premier accident de chemin de fer de tous les temps, d'ailleurs, je ferme la parenthèse. Et donc l'Astrolabe quitte Toulon. Dumont-Durville s'est donné pour mission de faire toute la clarté sur le sort de l'expédition La Pérouse, ce qui convient tient autant à l'état d'esprit nostalgique de l'époque qu'aux aspirations romantiques qui commencent à s'y faire jour. Vous voyez, on est dans cette... Il y a du Chateaubriand derrière tout ça, évidemment, un peu de souffle. Malheureusement pour Dumont d'Urville, un navigateur anglais, Peter Dillon, est lui aussi sur le coup. Et ça, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour lui, Dominique Lebrun.
C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, on a une conjonction d'événements et de circulation d'informations stupéfiantes à l'époque. Charles X veut donc retrouver les traces de l'expédition de son frère. On monte une expédition, encore une fois, scientifique et de recherche. Des bruits arrivent à ce moment-là. Des baleiniers auraient vu quelque chose. On aurait trouvé ceci, on aurait trouvé cela. L'expédition part, mais sur ce arrive une information autrement capitale. Oui, un capitaine américain, semble-t-il, certain Dillon, a trouvé rien moins que la garde de l'épée de la Pérouse. Ce qui, quand on voit la taille de l'objet par rapport à l'immensité du Pacifique...
C'est invraisemblable.
Jules Verne c'est un peu lui-même n'aurait pas...
Oui. C'est la gourmette de Saint-Exupéry.
C'est
même bien pire.
Bien plus vaste. Oui. Donc, à ce moment-là, on envoie d'urgence une estafette depuis Brest jusqu'à la côte pacifique d'Amérique du Sud, où se tient un vaisseau stationnaire français qui s'appelle la Bayonnaise, qui elle-même va se mettre en route directement vers le lieu supposé du naufrage, tandis que Dumont d'Urville, de son côté, fait sa navigation et en arrivant à Hobart, lit dans le journal qu'un certain Dillon a trouvé, et là, il n'y croit pas trop parce que Dillon a une très mauvaise réputation. Il a fait 2 mois de prison pour des histoires de brutalité contre son père, contre son chirurgien, semble-t-il. On ne connaît pas encore le fond de l'histoire. Et puis, c'est quand même un Anglais ou un Américain ou un Irlandais, on ne sait pas trop.
Enfin, un Anglo-Saxon, quoi, pas quelqu'un de très digne de confiance.
Qui a trouvé les restes d'une expédition française, c'est un peu vexant. Donc, pour parler vulgaire, Dumont d'Urville, cela joue un peu perso. Mm-hmm. Et donc, il va quand même à Vénicoro. Mais là, c'est le début d'autres soucis. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, peut-être.
Non.
Alors, continuons.
Oui, donc, ça, c'est là que ça devient justement le plus fort.
C'est bel et bien là que ça s'est passé.
Eh oui.
Moyennant l'offrande de tissus de couleur écarlate, c'est une monnaie d'échange.
Vanikoro, on est à 630 000 marins au nord de Nouméa. Hein.
Exactement.
Un millier de kilomètres dans le Pacifique. Hein.
Très difficile à placer sur une carte.
Oui.
Ça, c'est le coin le plus paumé qui soit. Et là, donc, effectivement, les naturels les envoient au-dessus des eaux claires et cristallines du lagon et dessous les pavés.
Et voilà.
C'est donc là que ça se passe. On réussit à sortir de l'eau des pièces. On rentre en France. Et là, c'est la continuation de la malédiction de la Pérouse adaptée aux trouveurs qui découvrent que 1. Dillon est passé 3 semaines avant lui, a offert à Charles X les pièces majeures et Dumont d'Urville est traité comme un moins que rien. Sa carrière est sabrée.
Mais il y retournera quand même à Vanikoro, 11 ans plus tard. Et il avait même l'intention d'effectuer une 3e mission sur place, sauf que celle-là, il n'aura pas pu la faire, puisqu'il est mort, comme on l'a dit, dans un accident de chemin de fer.
Alors, en revanche, il prendra sa revanche sur Charles X.
Mm-hmm.
Parce qu'après la révolution de 1830, quand Charles X doit partir en Angleterre d'urgence avant de se faire lyncher, celui qui commande le vaisseau qui l'amène en Angleterre, c'est Dumont d'Urville. La vengeance est un plat qui se mange froid.
Ouais, c'est quand même étonnant.
C'est étonnant.
Ouais. Alors il va falloir ensuite attendre très longtemps pour qu'un navire français ne vienne de nouveau croiser du côté de Vanikoro. On parviendra à récupérer les ancres de l'Astrolabe en 1883 seulement. Hein.
Ah ben oui, mais là après, on entre dans tout à fait une autre démarche. Là, 1883, c'est la construction des empires occidentaux.
Évidemment,
là, c'est tout à fait une autre logique. Plus la fidélité de la marine à ses anciens, donc il s'agit de ramener tout ce que l'on peut. Et il y a un véritable musée, la Pérouse, dans le sein du musée de la marine.
Voilà, et c'est alors dans un premier temps, on emmène tout ça à Nouméa, puis c'est rapatrié à Paris, effectivement. Les vestiges des frégates reviennent à Paris un siècle après le retour prévu de l'expédition, puisqu'elles arrivent à Paris en juillet 1889, c'est-à-dire un siècle après. Ce qui aurait dû être normalement le terme de l'expédition de la Pérouse. Alors, il faudrait parler de tout ce qui se passe sur le site, à Vanikoro, pendant toute cette période. Pour être honnête, il ne se passe rien de très très notable avant la fin des années 50, 1950. Et puis là, tout d'un coup, il se trouve qu'un certain Pierre Antonioz, qui est commissaire de France aux Nouvelles Hébrides, se passionne pour l'énigme La Pérouse. Sous sa direction et grâce à l'invention du scaphandre autonome, une première équipe de plongeurs s'active au-dessus de l'épave, donc l'épave qui est celle de l'Astrolabe, là. Et tout ce qui est remonté est concluant, notamment des saumons de plomb, vous savez, qui porte la marque en usage à l'arsenal de Brest en 1785, etc. Il y a toujours un petit serment de cœur lorsqu'on obtient confirmation de l'hypothèse malheureuse, évidemment. Ce qui est très étonnant, c'est que pendant très longtemps, alors qu'on savait par un grand nombre de témoignages que les Français avaient été se réfugier sur l'île, qu'ils avaient institué un campement, on n'avait aucune trace de ce campement. Et puis ces traces, elles sont apparues, mais alors vraiment très récemment, à la toute fin du XXe siècle, et celui grâce auquel elles sont réapparues est avec nous dans ce studio, c'est Jean-Christophe Galipeau. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez des choses à nous raconter, j'imagine, sur cette affaire et sur ces découvertes de 1999.
En effet, ces témoignages sur les rescapés de l'expédition, les indigènes de Vanikoro le racontent à Peter Dillon et plus tard à Dumont d'Urville. Mais rien à terre ne vient corroborer ces histoires.
C'est-à-dire qu'on avait retrouvé pas mal de vestiges sous-marins, mais rien à terre, comme s'il n'y avait pas eu de survivants.
Exactement. On peut en douter. On finit par en douter, d'ailleurs. Dumont d'Urville veut être précis. Il essaye de construire l'histoire du Mont d'Urville, puisqu'il est le second à passer à Vanikoro. Et donc, il raconte ce que les indigènes lui disent. Ils se sont installés à Payou. Ils ont construit un camp. Dans ce camp, ils ont fait un bateau avec lequel ils sont repartis 6 lunes plus tard. Mais aucune preuve pour démontrer que cette histoire racontée par les indigènes, qui ont très bien pu massacrer l'équipage, comme on l'a pensé plus tard, et cacher ce massacre derrière une histoire inventée.
Eh bien, ces preuves, vous, Jean-Christophe Galipeau, vous les avez trouvées, et dans un instant, vous allez nous raconter comment.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'ouverture de l'opéra de Gluck sur Europe 1, Orphée et Eurydice, Franck.
Vous avez vu, Jean-Christophe Galipeau, si nous mettons les petits plats dans les grands pour vous accueillir, hein, ça sonne cette musique extraordinaire. Je rappelle que vous êtes archéologue à l'Institut de Recherche pour le Développement et au Muséum National d'Histoire Naturelle et que vous avez réalisé ces fameuses fouilles de Vanikoro. Alors, au début, vous y arrivez en 1990, c'est ça ?
C'est en 1990 qu'on a voulu tenter l'aventure archéologique pour retrouver des traces de ce camp. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au camp. On sait aujourd'hui qu'il y en a encore plus que ce qu'on imaginait. Mais personne ne retrouvait rien. C'est compliqué de retrouver un camp de naufragés. Les épaves à Vanikoro, l'épave de la boussole, gît par 12 mètres de fond.
Ah oui.
L'épave de l'astrolabe, à peine 6 mètres. Donc ces deux épaves, ça a été des mines. Et tous les indigènes des îles Santa Cruz, l'archipel...
Il suffit de plonger un peu et puis on va chercher ça.
Exactement. Tout le monde, dans tous les villages, Peter Dillon a ramassé des objets européens dans tous les villages où il est passé, de Vanikoro. Et après lui, beaucoup de gens ont continué à plonger et à se servir dans les épaves, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, retrouver des objets à terre ou des fragments d'objets à terre, ça ne signifiait pas forcément c'était l'endroit où les naufragés s'étaient installés.
Ils auraient pu être ces objets ramassés sur les épaves et déposés ensuite à terre. Vous, ce que vous cherchiez, c'était la preuve qu'il y avait bien eu des survivants. Et cette preuve, vous avez mis un peu de temps à la trouver, mais vous l'avez trouvée.
Exactement, oui. Il a fallu beaucoup de ténacité. Il faut dire que la côte de Vanikoro, où ont sombré les épaves, est la côte la plus hostile d'une île qui n'est pas très agréable à vivre. C'est un volcan toujours entouré de nuages, il pleut 300 jours par an. Toute la côte sud, c'est des mangroves. Donc c'est cette végétation délirante qui entre dans la mer. L'accès à la côte est très difficile. Et finalement, sur cette côte, c'est vrai que le seul endroit où on peut accéder à une plage de sable, c'est Payou, l'endroit où les naufragés se seraient installés d'après les indigènes.
Donc en toute logique, d'ailleurs, ça ne pouvait être que là, quelque part. Hein, c'est ça, il n'y avait pas tellement le choix, a priori.
Il était très difficile d'imaginer qu'ils aient pu s'installer ailleurs. Et en plus, bon, bien sûr, Payou a un énorme avantage par rapport à d'autres coins de cette même côte, c'est qu'il y a une petite rivière, la rivière Lawrence, nommée par Dillon ainsi. Et cette rivière permet d'avoir à la fois de l'eau douce en permanence, mais aussi d'avoir un endroit, elle est suffisamment profonde pour que l'on puisse mettre une petite embarcation qui aurait été construite sur la terre ferme à l'eau à cet endroit. Donc, pour les survivants, c'est vrai que c'est idéal.
Alors, avec Valérie Jauneau, vous avez publié un ouvrage passionnant, édité aux éditions Errance avec l'IRD, qui s'appelle « Au-delà du naufrage » et qui parle justement de ces survivants. Et ce que vous dites, c'est qu'il est quasiment impossible de savoir combien ont survécu à ce naufrage terrible.
Il est très difficile. On avait deux rêves. Le premier, retrouver des traces tangibles de ce camp. Et le deuxième rêve, c'était bien sûr, après avoir retrouvé ces traces, que ces traces nous permettent de comprendre ce qui avait pu se passer à terre. Le mystère, on parle du mystère La Pérouse. Le mystère La Pérouse, c'est que deux bateaux commandés par des marins chevronnés aient fait naufrage en même temps dans une île. Ça n'existe pas dans l'histoire récente de la navigation, ce genre de hasard malheureux. Et le deuxième mystère, c'est que naufragés, si naufragés il y avait eu, que ces naufragés aient tous disparu, qu'aurait bien. On est au XVIIIe siècle, on n'est pas au XVIe siècle. Le monde, Vanikoro est une île inconnue, mais dans un monde connu.
C'est ça.
Toute l'archipel des Salomon a déjà été cartographié. Les officiers connaissent ces îles, ou en tout cas savent très bien qu'à partir du moment où ils arrivent dans les Salomon, ils savent très bien qu'ils ne sont pas loin de terres occupées, Timor et toute l'Indonésie. Donc, il n'y avait absolument aucune raison pour que des naufragés n'aient pas pu rejoindre un port connu à l'époque. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé.
Alors, on est donc en face d'un point d'interrogation pour ce qui est du nombre et des circonstances exactes de survie des membres de l'expédition. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'événement lui-même et sur les causes de cet échouage, de ce double naufrage? Comme vous dites, c'est un cas rarissime, même unique.
Il est très difficile d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. L'un des deux navires, on sait que c'est la Boussole, a fait naufrage sur un récif qui n'aurait pas dû exister. Vanikoro, c'est un volcan. Les volcans de Mélanésie sont des volcans anciens. La Mélanésie, c'est l'ouest du Pacifique, le sud-ouest Pacifique. Ce sont des volcans anciens. Dans ces îles qui n'ont jamais de lagon en fait, hein, la mer descend très profondément, très rapidement. Il ne peut pas y avoir formation corallienne. Éventuellement, on peut avoir un petit peu de corail sur le bord de mer, mais on ne peut pas avoir de récif corallien parce que la mer est trop profonde. Le corail, pour pousser, doit être à une distance relative de la surface de l'ordre de la dizaine de mètres maximum.
À Vanikoro, donc là, les fonds sont trop enfoncés, trop profonds.
Sauf Vanikoro, c'est l'exception. Et Darwin se servira plus tard des indications ramenées par Dumont d'Urville pour établir sa grande théorie sur la croissance des récifales. Donc, Vanikoro, c'est quoi? C'est un lagon qui fait 40 mètres de profondeur, donc un lagon très profond, et un récif barrière à peu près 2000 marins de la côte. La Pérouse ne pouvait pas le savoir, ça. Ils se retrouvent dans une nuit de tempête. Ils arrivent près de cette île, ils voient le volcan et ils se fracassent sur un récif qu'il n'a probablement pas vu. Donc là, on peut expliquer le naufrage de la Boussole comme ça. Mais l'astrolabe qui était derrière et qui visiblement ne se fracasse pas en même temps aurait dû pouvoir
survivre,
passer à travers le récif, rentrer dans le bain, etc. Voilà.
Mystère. Vous voyez qu'on bute néanmoins, malgré toutes vos découvertes, Jean-Christophe Galipeau, sur un mystère. Au-delà d'un naufrage, les survivants de l'expédition La Pérouse, c'est édité, coédité par les éditions Errance et IRD Éditions. Et puis, La malédiction de La Pérouse, sur les traces d'une expédition tragique, ce sont toutes sortes de textes sur le sujet présentés par Dominique Lebrun aux éditions Omnibus.